Derrière chaque château, il y a une histoire, parfois glorieuse, parfois mystérieuse, souvent méconnue. Dans ces épisodes hors série, je vous emmène à la rencontre des châteaux et du patrimoine français pour écouter ce que les murs ont encore à nous dire. Bienvenue dans un voyage à travers le temps.
Quel est pour vous le plus beau château en France ?
Alors, c'est difficile de dire, c'est souvent ces questions du plus beau chantier, du plus beau château. Ils sont liés à des émotions aussi, pas simplement à l'œuvre elle-même. Vous savez, c'est comme un bon repas, c'est aussi le cadre, c'est avec qui
les gens avec qui on partage. Mais...
ouais, c'est pas. Alors je dirais le plus beau chantier plutôt que le plus beau château. Je me rappelle tout au début de ma carrière avoir déposé des mosaïques dans un endroit qui s'appelle Ganagobie dans les Alpes de Haute-Provence, les plus belles mosaïques du Moyen Âge qui existent en Europe, même dans le monde, je pense. C'était sur une colline, dans un lieu magique, avec un monastère. Il n'y avait rien que le paysage qui était fabuleux, des mosaïques exceptionnelles. Et c'est une émotion de les avoir déposées, restaurées, d'y avoir fait des conférences, d'y être revenu, d'y être... voilà, c'est une émotion. Alors c'est lié sûrement, j'étais beaucoup plus jeune, c'était un chantier sur le plan de l'environnement qui était exceptionnel. Et puis la qualité des œuvres. Donc c'est un tout, quoi. Chacun doit avoir une vision différente. Il y a des très beaux pavements du XIIe siècle à Sucignon, en Bretagne. Il y en avait, je ne sais plus de 1000 mètres carrés qu'on a déposé, des choses comme... La copie de la grotte Chauvet, bien sûr. On a la chance de rentrer dans la vraie grotte Chauvet. Évidemment, d'avoir travaillé sur Lascaux, je parle de l'original aussi. Tout ça fait que c'est une multitude de choses. Et puis, des chantiers à l'étranger assez exceptionnels. En Égypte, quand vous allez travailler sur la tombe de la nourrice de Toutankhamon, vous avez des visites qui sont pas au grand public et qui sont exceptionnelles. L'Ouzbékistan aussi. Pendant 3 ans, on était sur le guide des touristes. Ils disaient chantier français à tel endroit, c'était Sharizab, ça s'appelait. Fabuleux. Les gens nous communiquent encore avec nous pour nous dire on va refaire le monde. C'était notre époque. Mais c'est vrai que. Je crois qu'il faut une passion aussi quand même dans ce métier-là, c'est ça.
Aujourd'hui, vous êtes du coup secrétaire général de la Fondation Broad-Laurière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette fondation ?
Oui, effectivement, aujourd'hui je suis secrétaire général. J'étais déjà administrateur depuis plus d'une dizaine d'années. Et effectivement, le président a souhaité un petit peu se retirer. Donc il y a eu une nouvelle présidence et un nouveau bureau, avec une présidente qui est toujours dans la famille de Patrick de Broad-Laurière, celui qui a fait le don de son patrimoine et de sa fortune à ce fonds, en demandant à ce qu'on crée un fonds de dotation pour la recherche médicale. Donc le but, c'est effectivement, avec l'argent qui est placé et les résultats de placement, d'aider à la recherche médicale et à l'art-thérapie, puisque c'était un musicien, entre autres, comme je... élève de Nadia Boulanger, très bon musicien, qui avait évidemment fait quelques CD aussi, qui est malheureusement décédé d'un cancer, et donc qui a orienté la recherche médicale dans le domaine de l'oncologie et de l'art-thérapie, puisqu'il était musicien. Donc on a des appels à projets qui sont lancés, les gens répondent. Dans 15 jours, je suis à Paris, à l'Institut du cerveau, entre autres, pour regarder un petit peu les projets avec eux. Donc ils répondent à ces projets. Il y a une commission scientifique de médecins, je ne suis pas médecin et je n'y comprends pas grand-chose, qui juge ceux qui sont les plus recevables et qui présentent le plus d'intérêt, et ces projets-là sont aidés. En 2027, on a aidé à hauteur de 600 000 euros à peu près pour la recherche médicale. Notre but, c'est d'aller un peu plus haut, mais tout ça dépend des résultats financiers, évidemment, des placements. Après, si vous voulez, après avoir passé 40 ans à travailler, aujourd'hui, c'est essentiellement du bénévolat, que ce soit la Fondation du patrimoine ou la recherche médicale, c'est en tant que bénévole que je suis ici. Mais ça donne du sens aussi à ce qu'on fait. Et je trouve que c'est un autre monde qui est complètement différent du mien et que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, on a des médecins dans notre conseil d'administration qui nous traduisent un peu tout ce qu'on nous propose, parce que parfois, on ne comprend pas tous ces termes-là. Mais c'est une belle expérience aussi et c'est... Je crois qu'on participe à quelque chose quand même aussi. C'est toujours laisser une trace, pas pour nous, mais pour les autres, évidemment, pour les générations d'après, aussi bien dans le patrimoine que dans la recherche médicale.
Et donc c'est orienté dans la recherche médicale du fait des pathologies qu'il a pu lui...
Exactement. L'orientation de l'oncologie, c'est essentiellement lié à son décès, qui est suite à un cancer, et l'art-thérapie, parce que c'était un musicien. Donc les deux sont liés, effectivement, c'est dans ce domaine-là, le domaine de la recherche, alors donc en particulier les cancers du cerveau et tout ce qui est cancer et oncologie.
Et alors, comment choisit-on les projets à financer?
Alors, il y a bien sûr un appel d'offres qui est lancé, c'est-à-dire sur notre site de la Fondation Broult de Laurière, vous avez un appel à projet. Donc, les chercheurs répondent, les instituts, l'hôpital de Périgueux répond, l'Institut du cerveau à Paris répond, l'INSERM, etc. Ils répondent à l'appel à projet qui est lancé, qui est à hauteur de 300 000 euros par an sur l'appel à projet au lendemain. Donc ils répondent à ce projet-là. Ils nous reviennent. Il y a toute une partie administrative qui est faite par la secrétaire qui est ici et qui juge si sur le plan administratif c'est bon. Ces dossiers sont remis à un comité scientifique où il y a une dizaine de chercheurs et de médecins, parfois à la retraite, qui jugent et qui donnent un classement. Ce classement nous est proposé au conseil d'administration et il y a un vote du conseil d'administration. Souvent, ce qui a été proposé par le comité scientifique est retenu. Voilà, c'est un peu le principe. Mais c'est les gens qui nous sollicitent, entre guillemets, par le biais du site et des appels à projets.
Le mécénat privé est-il devenu indispensable face aux limites des financements publics?
Oui, je crois que vous avez raison. C'est aujourd'hui, ça a supplanté un peu, je parle toujours du domaine du patrimoine et un peu dans le domaine médical aussi, où il y a quand même pas mal de grandes fondations. On n'est pas dans le domaine médical, on est loin d'être la plus grande fondation qui apporte de l'aide, mais quand même, on participe. Effectivement, c'est aujourd'hui, entre guillemets, une roue de secours, parce que je pense qu'aujourd'hui, financièrement, l'État ne peut plus subvenir à tout. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'échelle mondiale. On a des sollicitations dans d'autres domaines qui ne sont pas simplement le médical ou le patrimoine. Là, j'assimile les deux. Et effectivement, il faut trouver du mécénat privé. Le mécénat privé n'est pas non plus toujours... On a toujours cette image des grands patrons, je ne vais pas citer les noms, mais en réalité, c'est toute une multitude de petites entreprises qui font du mécénat. En Dordogne, on a un club de mécènes qui donne un petit peu d'argent, mais c'est des petites sommes, de 4 000 euros, 5 000 euros, mais vous arrivez à distribuer 1 million d'euros sur la Dordogne, sur un an quand même. Et donc, on participe effectivement de manière importante. Et je pense que pour la recherche médicale, c'est un peu ça. Vous avez des successions en déshérence aussi qui apportent un peu d'argent. Et vous avez des refontes sur le patrimoine, se pose la question aujourd'hui, déjà certains l'ont évoqué, de prendre la taxe de séjour, une partie de la taxe de séjour, pour financer la restauration des bâtiments, parce que c'est vrai que le tourisme, il vient en grande partie, si je prends la Dordogne, pour voir des monuments. Donc c'est un peu normal qu'il en revienne sur les documents, sur les monuments, les documents historiques.
Oui, oui.
Donc je crois qu'il y a une grande recherche de financement, de sources de financement extérieures. Et puis il y a tout ce qui est aujourd'hui spectacles qui sont donnés pour la restauration, de manifestations pour la restauration d'un château. Je pense que oui, aujourd'hui on ne peut pas compter que sur l'État ni sur les collectivités.
Qu'est-ce qui vous touche, vous, personnellement, dans cet engagement?
Je pense, peut-être un peu prétentieux, mais avoir une compétence dans le patrimoine à travers le parcours. Et je pense que c'est aujourd'hui de rendre un petit peu ce que le patrimoine m'a donné, entre guillemets. Pas simplement, je ne parle pas de l'aspect financier, mais je parle de l'aspect culturel, émotion, exception de conditions assez extraordinaires. Et donc je pense que c'est normal de rendre un petit peu ce qu'on a reçu. Sur le plan médical, c'est différent, mais c'est justement une curiosité et puis de se redonner du sens aussi un peu à ce que l'on fait aujourd'hui. Ma carrière est faite, j'ai le droit d'essayer de faire des choses qui redonnent du sens et qui me font plaisir aussi, et qui puissent participer à une aide collective aussi. Donc je pense que c'est ça.
En tant que délégué de la Fondation du patrimoine en Dordogne, puisque vous avez de multiples casquettes, comment percevez-vous l'état du patrimoine local?
Alors, je pense que l'état du patrimoine local n'est pas très bon, effectivement, vous avez raison, si c'est ça. Par contre, je pense qu'il devrait y avoir des formations pour les élus pour qu'ils se rendent compte un peu de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Je compare souvent, mais là je reprends une casquette un peu dure, mais souvent les gens me disent, vous rendez compte, cette église, il faut mettre 300 000 euros dessus, nous on n'a pas les moyens. Et moi je leur réponds toujours, bon, voyez le rond-point que vous venez de construire, il coûte plus de 300 000 euros. Dans 30 ans, vous pensez que le rond-point sera encore là? Je ne pense pas, tandis que l'église ou le bâtiment, il sera là. Et il a une histoire, il raconte quelque chose, il fait partie de notre histoire. C'est comme arracher une page d'un livre et vous ne pouvez pas faire ça. Alors évidemment, ils ne sont pas tous sensibles à ce discours, mais je pense pourtant que c'est ça, quoi. On est issu de quelque chose, c'est pas revendiquer On n'est pas en train de revendiquer que tous les monuments doivent être sauvés, mais je pense qu'on ne peut pas les détruire surtout. Et je pense que pour ça, il faut avoir un peu d'imagination et leur redonner une fonction, un sens. C'est le seul moyen de les sauver, puisque le financement arrivera qu'avec une utilisation.
Ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on accepte qu'à côté de bâtiments historiques soient construits des bâtiments modernes qui n'ont aucune continuité dans la, que ce soit visuelle ou dans l'esthétique, et qui cassaient vraiment le style global de la ville. J'ai jamais compris comment ça pouvait être accepté, c'est au niveau des agglos, ce genre de...
Donc je pense qu'effectivement, vous avez après le problème de la formation aussi, bon, on a parlé des élus, mais je pense qu'il y a aussi des projets politiques comme beaucoup de poids qui permettent des fois de faire des constructions qui sont parasites autour de patrimoine existant. Et je crois que le rôle des architectes de bâtiments de France est important. Il n'est pas seulement important pour dire faut telle peinture ou telle couleur sur un truc, ça à la limite c'est réversible, c'est pas très grave. Mais la construction d'un bâtiment neuf dans un contexte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, mais il faut qu'il s'intègre et qu'il y ait une certaine intelligence dans l'architecture. Aujourd'hui, je vois dans l'architecture, je ne parle pas de l'architecture exceptionnelle qu'on voit dans les magazines, mais dans la construction habituelle, vraiment des constructions comme à l'après-guerre. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut construire pour mettre du logement, mais on ne pense pas comment les gens vont vivre dedans.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne crée pas une place, on ne crée pas un mode de vie à l'intérieur. On réfléchit sur le nombre de gens qu'on va mettre et les dimensions qu'on va mettre et le coût que ça va représenter.
Oui.
Mais pas sur le mode de vie, l'essentiel. Et c'est terrible parce qu'on a une architecture qui vous défigure le paysage et qui est vraiment incongrue. Quoi. Alors que souvent, un peu d'intelligence et de... Évidemment, ça ne coûterait pas beaucoup plus cher parce que je crois que les gens y resteraient, tandis que là, ils ne font que passer dans ces maisons-là.
Oui.
Et je crois qu'aujourd'hui, on a un peu... À part les grandes œuvres, on n'aura pas d'objets que l'on va conserver. Imaginez en Dordogne une architecture contemporaine qu'on pourrait conserver. Montrez-moi un exemple.
J'en ai pas.
Je pense qu'il y a des villes où il y en a, mais je
j'en ai pas, non. Et en plus ça ne me sensibilise pas. Donc j'avoue que j'ai pas trop d'appétence. Enfin, j'ai pas trop d'intérêt pour.
C'est ça. Vous avez cette impression qu'on passe à côté d'une époque au niveau de l'architecture. On répond à des appels d'offres avec des prix, des dimensions, des surfaces, des coefficients, mais on a plus de sensibilité qu'on devait avoir et puis cette émotion que ça doit provoquer quand même. Alors que vous l'avez encore dans beaucoup de pays, en Espagne, en Italie, vous avez des choses extraordinaires. On peut ne pas aimer, ça je l'entends, mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'œuvre contemporaine. Si, on a encore à Périgueux un musée, le musée Jean Nouvel, qui est d'une qualité, d'une sobriété, mais d'une qualité exceptionnelle. C'est de l'architecture, ça. Il me disait, c'est, pour moi, c'est un hangar que j'ai construit, il me disait, mais c'est un bel hangar, quoi.
Moi, ce que je reproche à l'architecture contemporaine, c'est que je trouve qu'elle vieillit très mal par rapport à l'ancien. Je lui trouve pas d'âme. C'est-à-dire que là où un hôtel particulier ou une belle demeure, etc., et me semble chaleureuse et posséder une certaine âme, le contemporain ne m'émeut pas. Et je trouve qu'effectivement, ça vieillit mal. Et je trouve que ce qui est surprenant toujours, c'est que les matériaux qui sont souvent utilisés ne vieillissent pas bien. Des fois, je suis surprise parce que vraiment, je me dis, mais est-ce qu'ils ont pensé au fait qu'aujourd'hui, le bâtiment, il est dans sa première année, donc il est plutôt à son apogée. Puis le temps passant, souvent, parfois, il y en a qui recouvrent un petit peu de bois ou de choses comme ça. Et la façon dont vieillissent certains matériaux...
Non, mais c'est vrai, vous avez raison, surtout que l'architecture peut être un élément pour l'activité qui est important. Vous prenez, alors on est à une autre échelle, mais vous prenez l'architecture de Frank Gehry avec Bilbao, tout ce qui a été construit, tout ça, vous vous déplacez du monde entier pour y venir. Donc c'est vrai que ça a un coût, et effectivement, peut-être que dans notre région, c'est au-dessus de nos moyens. Mais sans aller jusqu'à ce niveau-là, moi j'ai eu la chance de voir Frank Gehry à Périgueux, parce qu'on a travaillé pour eux aussi sur des œuvres. Je veux dire, à un moment donné, notre monde, il est ouvert sur le reste aussi. On n'est pas périgueux-périgordin, quoi. Il faut accepter un peu que parfois, il y a des idées qu'on... Moi, il y a une architecture qui me plaît aujourd'hui, qui est amusante et qui serait très drôle, c'est les Saïta à Séville. Vous avez... vous regardez sur les... C'est assez fabuleux, c'est tout en bois, c'est des champignons, quoi, les Saïta. Et les gens marchent dessus, dessous, c'est une place, mais voilà. Et ça restera, ça. Vous avez des architectures exceptionnelles, de Barcelone, de Gaudi, vous avez des choses exceptionnelles qui ont été atypiques. Et il faut oser, mais il faut oser aussi des choses avec les moyens qu'on a. Donc ici, c'est peut-être pas le cas, mais je pense qu'on peut réfléchir sur le... En plus, la simplicité, souvent. Vous savez, quand vous voyez tous ces promoteurs qui vous proposent la maison provençale, ici, avec la partie arrondie, qui coûte plus cher que sur une porte carrée, vaut mieux... au mieux rester très simple, très basique. L'architecture, c'est des lignes, c'est simple.
Est-ce que vous diriez que les habitants mesurent suffisamment la valeur de ce patrimoine ?
Alors, je pense que globalement, oui. Le patrimoine, ne serait-ce qu'à travers l'expérience que j'ai eue dans la société Socra, où j'ai énormément ouvert aux enfants, aux visites. Et je me souviens avoir simplement fait une communication après, certes, c'était médiatisé, mais après l'incendie de Notre-Dame, où on avait les apôtres, un peu une manière à nous de participer, c'était de faire des visites bien évidemment gratuites le samedi. Et j'ai dû dire ça à une télévision, je ne me rappelle plus. Le lendemain, au bureau, on avait 4000 demandes qui voulaient visiter. Donc on a lissé tout ça sur plusieurs mois, etc. Et le nombre de visites, quand la Socra était ouverte, et d'enfants qui venaient, c'était assez fabuleux. Il m'est arrivé de donner avec, dans des écoles pour enfants en situation de handicap, qui avaient des difficultés à garder de l'attention, de faire des mosaïques avec eux. Dès qu'ils touchaient avec la main quelque chose, ils étaient concentrés, tout se passait bien, il n'y a jamais eu... Donc je pense aussi que la main, on éloigne trop de la formation, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de former des cerveaux, mais à un moment donné, la main reste quelque chose d'important, et je pense que ça fait partie de notre formation, et je crois qu'on doit pouvoir faire toucher aux enfants des matériaux, quoi, leur apprendre aussi de se servir. On n'est pas tous derrière une console, quoi. Je pense qu'à un moment donné,
ça va devenir plus important. Restaurer un monument, est-ce que c'est uniquement esthétique ou est-ce que c'est aussi identitaire ?
Alors je dirais que c'est les deux, mais surtout identitaire, parce qu'on préserve une histoire aussi. Ce n'est pas simplement le monument, c'est ce qui représente, tout ce qui s'y est passé dedans. Le travail qui a été fait, quand on démolit quelque chose, ça veut dire que tout ce que les gens, je parle du maçon, du charpentier, du couvreur a fait, on le détruit. C'est comme si on détruisait votre travail, quoi. À un moment donné, vous vous dites, même s'il y a quelques générations entre les deux, mais vous dites non, il faut respecter tout ça, je pense. Parfois, il y a des conditions, il ne faut pas être non plus accepter n'importe quoi, mais je crois qu'à un moment donné, il faut respecter tout ce que ça représente. Le travail qui a été fait, l'identité du bâtiment, ce qu'il a vécu, les histoires qui sont passées, où il y a toujours un personnage important qui est passé dans un château, qui a vécu, qui a... Voilà, je pense que tout ça, on ne peut pas le détruire. Et il y a le côté esthétique aussi, parce que parfois, le premier coup d'œil nous fait dire « Oh, c'est beau !» Mais après, c'est surtout l'identité.
Est-ce que vous diriez que le patrimoine peut être un moteur économique pour un territoire comme la Dordogne ?
Ah, je pense que oui. Aujourd'hui, nous avons le tourisme et l'agriculture, mais je crois que le tourisme est ce qui rapporte le plus dans le département. Et je pense qu'on en est vraiment très loin de ce qu'on pourrait faire. C'est vrai qu'il y a, ne serait-ce que sur la ville de Périgueux, vous avez une quantité de monuments qui sont enterrés. Quand je dis enterrés, c'est parce qu'on ne les a pas fouillés et qu'on ne peut pas les mettre en valeur pour des raisons financières. Mais je pense qu'il y a des monuments qui mériterait d'être mis en valeur. On est les arènes de Périgueux, elles devraient être mises en valeur. Il y a une grande partie, pas la totalité bien sûr, mais qui existe sous terre. Et donc les réutiliser comme une scène de théâtre par la suite. Mais il y a des tas de monuments comme ça. Et trouver un lien. Alors c'est vrai qu'ils sont dans un tissu urbanisé, c'est pas facile. Et on est dans un monde où il y a eu des constructions parasites un peu, donc on ne peut pas démolir. Mais je pense que l'intégrité d'une ville aussi, c'est de conserver un peu toutes les époques et les histoires qui s'y sont passées. Donc je pense que c'est un moteur économique, oui.
Qu'elles puissent cohabiter ensemble.
Oui.
Que dit notre rapport au patrimoine sur notre société, selon vous ?
C'est surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, une identité. Vous avez souvent, on participe effectivement, si vous voulez, à des collectes où on demande aux gens de donner de l'argent. Bon, il y a les grands mécènes qui donnent de l'argent parce que, voilà, ils sont attachés au monument. Mais vous avez des quantités de gens qui donnent 10-15 euros pour avoir le droit de dire « j'ai participé à la restauration de ce monument ». Donc vous avez des nombres, parfois on compare, nous, les dons que l'on a en Dordogne sur des monuments avec le Pays Basque. Le Pays Basque, au total, des fois, a plus que nous, mais avec, je vais donner un exemple, 100 donateurs, nous on en a 10 000. C'est des petites sommes. Donc c'est cet attachement que les gens ont pour leur patrimoine et donc ils sont prêts à donner, effectivement, en fonction des besoins, des moyens qu'ils ont, des sommes, mais ça veut dire qu'il y a un attachement et c'est très identitaire pour eux parce qu'ils s'y retrouvent. Et c'est pas le côté religieux. L'Église, c'est pas simplement parce que c'est le lieu C'est un lieu religieux, c'est aussi parce que c'est un lieu qui a une histoire, qui a abrité des populations quand il y a eu des difficultés, qui aussi est l'endroit où on se retrouve, où on peut faire et aujourd'hui l'utiliser de manière différente aussi. Donc je crois que, non, je crois que c'est notre histoire. C'est comme si vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vous les détruisez, quoi. C'est le monument est notre histoire, il fait partie de notre histoire. Et je crois que les gens y ont un attachement très profond.
Est-ce que vous avez parfois le sentiment que l'on détruit plus qu'on ne préserve ?
C'est une question un peu difficile parce que détruire au sens démolir, je ne crois pas. Mais détruire l'image, oui. C'est-à-dire qu'on peut dévaloriser quelque chose ou le laisser se détruire. Mais on ne détruit pas, mais on laisse se détruire par manque d'envie, de moyens. Et effectivement, c'est un oubli, quoi. Ça tombe dans l'oubli. Ce n'est pas une destruction au sens démolir parce que je crois que ça fait toujours la une dans les actualités si on démolit quelque chose, mais par contre, le laisser détruire, oui. C'est un manque de courage aussi de ne pas prendre les... Alors, je reviens toujours, c'est la vision qu'on doit avoir, les élus, c'est aussi de prendre à bras le corps certains projets et d'essayer de faire la part des choses. Je comparais ce que on a dit déjà tout à l'heure, l'histoire des ronds-points et des églises, mais est-ce qu'on peut vivre sans ronds-points? Je pense que oui. Donc on a des choix à faire politiques et des choix financiers à faire pour essayer de conserver un peu ce qui ramène une identité et qui peut amener de l'attractivité et donc un intérêt pour les gens à venir dans la région.
Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux jeunes générations ?
Alors je pense que ce que j'aimerais transmettre, et c'est ce que j'ai essayé de faire à mes enfants, j'ai pas de petits-enfants, mais mes enfants, c'est de toucher les choses et je vois, vous savez... Vous verrez, quand pour vos anniversaires, elles vous font, c'est des filles essentiellement, elles vous font des mots, et elles vous rappellent l'époque où elles faisaient des mosaïques avec vous, où elles faisaient un petit moulage, où elles avaient participé à ça. Donc la notion de l'utilité de la même, sans être un artiste, hein, on n'est pas obligé, mais de se rendre compte que ce n'est pas des éléments de la main qui sont juste là pour manger, qui ont aussi une capacité à faire des choses, à s'ouvrir sur l'art, à voir des choses belles, les voir sous un autre angle, et à se rendre compte de la difficulté parfois de faire des choses. Voilà, je crois que c'est cette notion de main sur le... Évidemment, la main marche avec la tête. Si la tête ne marche pas, la main ne marche pas.
Si vous deviez résumer votre engagement en une phrase, qu'est-ce que ça serait ?
C'est pas facile, ces questions que vous me posez, mais... Je pense que...
J'accepterai deux phrases.
Non, je crois avoir participé modestement à une transmission du patrimoine et de leur histoire et d'avoir eu la chance de faire partager, parce que ça a été le cas, de faire beaucoup de visites dans les ateliers, toujours de manière bénévole, bien évidemment, des monuments sur le souvenir. Si vous voulez, j'ai encore beaucoup de Périgordins qui me connaissent plus à travers la société Sopra et qui disent « Vous vous rappelez quand je suis allé visiter, vous aviez telle chose, c'était fabuleux, mes enfants. » Et combien de gens m'ont dit quand je faisais visiter Versailles, la galerie, « Ah, quand j'étais petit, j'étais venu avec mes parents. » Donc cette notion d'avoir laissé une image dans les yeux d'œuvres d'art, pas de moi évidemment, d'œuvres d'art qu'ils ont pu côtoyer ou voir de près. Et ça, je pense que sur Périgueux, il n'y a pas grand monde qui a pu faire toucher des Miro, des Calders, des Rodin, les apôtres de Notre-Dame à des enfants qui sont fait photographier devant, qui ont pu toucher ça. Donc c'est de donner quelque chose qui est un peu inaccessible. Et c'est un peu cette transmission d'avoir permis aux gens de voir des choses inaccessibles. Mais voilà, ça reste très modeste, parce que c'est pas avec ça qu'on vit, mais au moins une petite pensée de ça, quoi, de mémoire. Bon, voilà.
Entreprendre, restaurer, financer, préserver, est-ce finalement une même manière de servir l'intérêt général, enfin le bien commun ?
Oui, je pense que c'est toutes ces phases que sont la restauration, la conservation et la transmission, mais je rajouterai aussi la réutilisation, parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des objets que l'on conserve comme des objets qui sont sur une vitrine. Il faut aussi les faire vivre, et donc je pense qu'il faut rajouter réutilisation dans le sens où on leur redonne une fonction qui leur permettra de continuer leur vie pour les générations futures.
Eh bien, merci beaucoup Patrick. On était parti sur 30 minutes, ça fait une heure.
Oui, j'imagine mais que vous allez sanctionner tout ça.
Ainsi s'achève cet épisode hors série consacré au château et au patrimoine français. Merci de nous avoir accompagnés dans cette parenthèse hors du temps. On se retrouve très bientôt pour continuer à faire vivre ces lieux et leurs histoires.